les rendez-vous de Rosendo. Les rendez-vous de Rosendo, tous les dimanches à 13h, le mardi à 23h, et aujourd'hui, Rosendo, tu reçois Karine Veir et Sophie Rigal.
Bonjour à tous, je reçois effectivement deux artistes plasticiennes, Sophie Rigal et Karine Veir, artistes plasticiennes du Lot, et tous les deux nés à Cahors, n'est-ce pas? Bonjour Karine, bonjour Sophie.
Bonjour Rosendo.
Alors, comment vous êtes rencontrés pour faire tout ce que vous avez fait jusqu'au présent?
On s'est rencontrés en 2010 lors d'une exposition que je faisais à Cahors, une expo personnelle à Cahors, à Caviole, salle Caviole. Et c'est là, Sophie est, s'est présentée, on a discuté un petit moment, puis après on s'est retrouvés autour de nos créations personnelles pour discuter d'un projet éventuel. À partir de 2011, on a quand même sérieusement pensé à un projet personnel, enfin personnel, non, commun, je veux dire.
Oui, mais qui n'efface pas nos personnalités, justement.
Voilà, tout à fait.
Voilà. Oui. On pouvait se compléter, justement. Oui. Moi, je connaissais le travail de Karine par le biais des, d'appels d'art, aussi, et ça m'intéressait. Voilà, le fait qu'on amène l'art contemporain actif, on va dire, dans le milieu rural. Mmh.
Le travail de Karine concerne les gaufrages, la typographie, la peinture, les dessins. Mmh. Et les tiens, Sophie, c'est les installations, les objets suspendus, les suaires, les dessins aussi.
Les dessins aussi. À partir de dessins, j'ai fait des volumes, en fait. Je travaille souvent vite en volume. Mmh. Je ne peux pas me contenir dans le petit ou le plat. Ça déborde toujours. Mmh.
Je lis donc que toi, Sophie, tu as fait ton diplôme d'expression plastique à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux. Mmh. Diplôme de 92. Et Karine Veir, tu l'as fait et la licence d'art plastique à la faculté de Mirail à Toulouse en 96. Et je sais que vous venez d'exposer dans un espace qui s'appelle l'espace Saint-Michel à Condom.
Oui.
Dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle Chemin d'art en Armagnac. Donc, j'aimerais que vous puissiez partager cette expérience. Donc, comment vous avez décidé à intervenir dans cet espace qui auparavant c'était une chapelle, une église, je crois.
Oui.
C'est comment vous avez construit cette installation, parce qu'il s'agit d'une installation qui est accompagnée, je ne sais pas comment on pourrait le dire, avec les tableaux monochromes de Karine.
Mm-hmm.
Et donc les lieux, la date, comment ça s'est fait que vous avez pu intervenir?
Alors, tout d'abord, c'est suite à une rencontre avec Christophe Bassetto de l'Artothèque de Gondrin, que j'ai rencontré chez moi à l'atelier, qui est venu emporter des œuvres pour l'Artothèque, et à qui j'ai fait part de notre souhait que nous recherchions un lieu pour une expo commune avec Sophie. Et donc, au travers de cette discussion, apparemment, il avait une idée sur un lieu qu'on ne connaissait pas, nous, à l'époque. Il nous a dit, écoutez, envoyez-nous le projet, et puis envoyez-moi le projet, et je vais voir ce que je peux faire pour le soumettre à l'équipe de Chemin d'art.
Mmh.
Et du coup, on a mis, en 2011, donc, on a eu la réponse de Chemin d'art en 2012, je me trompe peut-être, Sophie. Ouais.
On est en 2013.
C'était en 2012. 2012, ouais. 2012.
C'était l'année dernière.
C'était en 2012, voilà.
Oui.
Et ensuite, dès qu'on a eu la réponse positive, bon, on savait un petit peu ce qu'on voulait proposer, mais une fois qu'on a eu visité les lieux, vraiment, le projet s'est monté en fonction de ce lieu.
Mm-hmm.
On a réfléchi à un dispositif. À quelles œuvres mettre, des œuvres que l'on avait déjà, mais en fait qui ont énormément évolué, puis de nombreuses œuvres qu'on a créées pour ce lieu-là.
Mmh.
Vraiment. Parce que c'est un espace très vaste.
Mmh. Sophie?
Oui. C'est. Qu'est-ce que je voulais dire?
Les choix des œuvres, la manière comment vous avez décidé les dispositifs.
Ben, déjà, sur. ce que je construis s'adapte toujours, enfin n'est jamais fini, ou ne se finit toujours qu'avec le lieu où j'expose. C'est comme un écrin, en fait. Mmh. Et pour ce lieu, Chemin d'Art avait aussi un défi, enfin, je pense que c'est intéressant oui. de le mmh. dire, parce que ce lieu appartient à une autre association, l'Espace Saint-Michel, ou les Amis de l'Espace Saint-Michel. Et Chemin d'Art avait pour idée de monter ce lieu, de montrer à la municipalité qu'on pouvait exposer de l'art contemporain dans ce lieu, ce qui n'est pas vraiment le cas. Voilà. Donc, ils ont senti qu'on avait ce potentiel, qu'on pouvait amener ça, et ils ont aussi choisi notre travail pour ça. Donc, on a décidé que nous, oui, voilà, ça nous convenait d'exposer là, et ça a été vraiment un travail de corrélation, quoi.
Dans cette installation, il y a, je répète, c'était une ancienne chapelle.
Oui.
Et il y a.
Non, des... c'est une église avec
ah, c'est une église.
Deux petites chapelles et un chœur, enfin une église.
Mais vous avez installé votre travail à côté de l'hôtel, ou juste en face de l'hôtel.
En face, au-dessus.
Tout investi. Hein.
Voilà, ouais.
Oui, tout investi, oui.
Tout le lieu est investi.
Oui. Il y a des fils de coton dont. Sont accrochés avec des fils de coton, les suaires que tu as dessinés, Sophie. Mmh. Il y a une demi-douzaine de tableaux monochromes rouges, n'est-ce pas, Karine ?
Les monochromes, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a cinq, mais dont trois très grands qui font 2 mètres deux par deux, qui ont été vraiment conçus pour le lieu, puisqu'on. Le lieu nous a offert cette possibilité de travailler en grand format, chose que je ne faisais pas jusqu'à présent. Je me limitais à du format petit, moyen. Là, vraiment, c'était une très belle expérience que de me lancer dans du grand format. J'ai dû déménager mon atelier, d'ailleurs, parce que je n'ai pas la place de travailler si grand. Mais très intéressant à faire. Et voilà, je pense qu'ils ont été mis en valeur dans ce lieu. Ils ont été placés dans les arches. Dans 3 arches, et après j'ai réservé une partie plus intime, un couloir, pour les gaufrages et les typogravures, voilà, qui ne sont pas forcément toutes rouges non plus. Il n'y a pas que des monochromes, finalement, dans cette exposition.
Oui. Et l'idée principale que vous a associée, que vous a fait communion devant cette ancienne église, et, parce que je vois là, celle que vous avez véhiculée dans les médias, c'était les suaires. Et c'était les sacrés, l'interpellation de lieu historique. Qu'est-ce que vous avez pris comme idée principale, comme parti pris?
Mais il y a plusieurs niveaux de lecture, je pense, mais le principal, on est parti sur le travail du féminin plutôt intime, féminin plutôt universel, dira Sophie, je pense, et la transmission au féminin.
Sophie?
Oui, universel, oui, le principe du féminin, c'est-à-dire qu'on pourrait parler aussi du principe du masculin. C'est pas, je ne les sépare pas, mais j'en prends un pour parler de l'autre, à la limite. Et celui qui m'occupe, oui, moi, c'est celui du féminin, c'est-à-dire c'est celui qui élabore un travail non manifesté. Et ça me plaît, justement, de coller là-dessus un art plastique, donc un art de la forme et du montrer, pour parler du non manifesté.
Quand tu dis, Sophie, non manifesté, ça veut dire suggéré, ça veut dire à peine voilé ou...
Ça veut dire que c'est un travail qui soutient le manifesté, comme le masculin, lui, l'aimait.
D'accord. L'autre, moi par l'autre, par l'altérité.
Oui, toujours. Altérité.
Oui.
S'il n'y a pas altérité, on stagne. Il n'y a pas de mouvement, en fait.
Oui. Mais alors, pour se concentrer sur les mots féminins, et pour toi, Sophie, qu'est-ce que veut dire féminin ?
Féminin, c'est le complémentaire du masculin. C'est l'ombre qu'on porte en soi, qui n'est pas négative, mais qu'il faut travailler. C'est les structures d'accueil que la vie a. je crois que c'est ce qui accueille, qui englobe et qui émet à la fois. Voilà. Mais ça se fait dans un... Ça se fait dans une partie qui n'est pas forcément visible. C'est un peu souterrain.
Sous-jacent.
Voilà.
Et pour toi, Karine?
Ben, moi, le féminin, c'est la base de tout ce que j'ai présenté dans cette exposition. C'est une personne vraiment qui... C'est ma grand-mère à la base. C'est quelque chose de très concret. Mm-hmm. C'est quelque chose qui sous-tend vraiment mon travail du départ, voilà, depuis plusieurs années finalement. C'est la base des propositions plastiques que j'ai faites, autant au niveau du gaufrage, de la typogravure ou du monochrome. Bon, mais c'est pas simplement ça. Après, le féminin, c'est, et j'en parlais tout à l'heure à Sophie justement, c'est sûrement une part que je souhaite ou que je pourrais développer chez moi. Mmh. C'était une discussion commune qu'on avait en venant. Et voilà, ensuite, je pense que ça peut se résumer à ça. Et c'est vrai que mon entourage est très féminin. En tout cas, l'entourage qui influence mon travail, mmh. qui le fait évoluer, qui a un œil dessus, plus féminin que masculin. Mmh.
Est-ce qu'on pourrait l'associer à une couleur? Je te pose la question parce que je lis dans différents articles qui parlent de votre travail, surtout sur cette transmission, que c'est le titre de l'exposition, les rouges, la couleur rouge comme couleur féminin. Et tu crois que ça colle à l'idée que tu te fais du féminin, la couleur rouge?
Alors elle peut coller dans un sens où elle peut être passion, la couleur rouge. Passion, énergie. Et c'est vrai qu'elle devait au départ soutenir l'exposition. Elle devait être fil conducteur de l'exposition, cette couleur. Mmh. Et au fil du projet, ce fil un petit peu disparu. Voilà, on le retrouve chez Sophie par petites lignes toutes fines, mais voilà, il est quand même sous-entendu au travers de l'exposition.
Mmh. Mais j'interviens sur le rouge. Mmh. Pour l'exposition, c'était une ponctuation. On voulait s'en servir aussi comme des points forts, comme des points de vie, comme un accès vraiment à ce que propose Karine, c'est-à-dire sa vision du féminin par rapport à une personne, par rapport à la vie concrète. Quoi.
That's not me. I go where I please. I walk. I'll be gone.
Vous venez d'écouter Radiohead avec le titre How to Disappear Completely de l'album Kid A.
Mm-hmm. Et alors, pourquoi tu as choisi cette piste précisément, Karine?
Ah, parce que c'est un morceau qui m'émeut à chaque fois que je l'écoute. Là, je l'ai encore écouté ce matin, je viens de le réécouter. À chaque fois, ça me fait la même sensation. Il m'emporte. Il m'emporte très très loin. Alors, surtout quand je suis dans un endroit, moi, chez moi, toute seule, alors là, je peux fermer les yeux et partir très loin. Dans les paroles de la chanson, donc il traverse des murs. Il suit la rivière. Il est là, mais il n'est pas là. Il disparaît. Voilà, c'est.
Quand tu es emporté comme ça, est-ce que tu penses à une couleur, par exemple le rouge?
Non.
Non, il n'y a pas de couleur.
Non. Mm-hmm. Fait que, au contraire, c'est très là sur ce morceau, c'est nébuleux. Il n'y a pas une couleur dominante. Mm-hmm. C'est très flou.
Mm-hmm. Bon, je parlais du rouge pour reprendre un petit peu notre conversation de tout à l'heure, et où Sophie nous disait que le rouge, dans votre exposition de transmission, une installation, et c'était le fil conducteur. Et donc, Sophie, tu nous disais que le public avait finalement retrouvé des petites touches, des petits rappels de ces rouges dans votre installation, que je rappelle à nos auditeurs, c'était une installation de Sophie Rigal et Karine Weir, à la chapelle, pardon, à l'espace Saint-Michel à Condon. Et donc, comment ça a été la réaction du public face à cette installation?
Alors, le public n'a pas forcément réagi au rouge, mais il réagissait au temps de lecture. C'est-à-dire que quand il venait une première fois, en général, il repassait. Les personnes repassaient, celles qui étaient intéressées, et il y avait une... Oui, comme s'ils attendaient la suite de l'histoire. Quelque chose qui chemine, qui va assez lentement. Et ça, pour moi, je pense que pour Karine aussi, c'est un très bon retour, c'est une réussite. Parce que la chose ne se délivre pas comme ça tout de suite. Il y a un aspect visuel, mais bon, on peut cheminer dedans.
Oui.
Surtout qu'on a travaillé sur les points de vue, parce qu'on a un grand espace. Hein. On a aussi de la hauteur. Et les choses se voient vraiment sous plusieurs angles. Et révèle des aspects qu'on a travaillés et qui sont complémentaires aussi. Donc ça donne une bonne... Alors, le rouge est là, hein, le rouge ponctue. Mm-hmm. Le rouge, c'est les accès à la vie qui bouillonne, hein, je dirais.
Et tu as raison, il n'a pas fait réagir négativement, je dirais. Parce que souvent, ce qui peut se passer, c'est qu'il fait réagir négativement.
C'est vrai.
Voilà.
Ah, et que surtout les formats, des grands formats monochromes... qui porte la question, et cette question elle résonne partout, ont été vraiment bien accueillis, il n'y a pas eu de...
Mais je pense que le rouge a été atténué dans cet espace, puis avec l'environnement des installations, il s'est fait plus discret qu'il ne l'est d'habitude, je pense.
Et pour moi, c'est la question qui résonne aussi, qui fait que ce rouge devient... Enfin, ce rouge organique, on va dire, devient quelque chose de plus substantiel. Dis-moi pourquoi je suis là. Pourquoi pas nous? Ben ça, les gens ont vraiment réfléchi là-dessus.
Oui.
C'est ça le fil rouge.
Question sur son existence. Oui.
Il y a un petit doute là que je formulais, ou que je me formulais par rapport à la couleur et par rapport à l'intervention que tu avais fait tout à l'heure, Sophie, sur la féminité, parce que souvent, la couleur rouge est associée plutôt à la passion, l'agressivité, dans les clichés des masculins, c'est plutôt ça. Et maintenant, vous avez trouvé cette couleur comme plutôt un point d'union sur les féminins. Et les féminins, tu n'as pas évoqué, comme souvent on le fait, la capacité de reproduction, la composition de chromosomatique, l'ADN, mais tu as cité plutôt l'accueil. L'accueil et la réception. Mais est-ce qu'il suffit pour définir quelque chose, comme le féminin, dire, bon, c'est le complément du masculin, ou est-ce qu'on pourrait rajouter autre chose que tu as envie de rajouter aujourd'hui pour délimiter ou pour profiler cette conception que tu as sur le féminin?
Moi, je... Enfin, comment dire... Par rapport à mon travail, hein, mm-hmm. je parle de ça.
Mm-hmm. Oui, oui. Parce qu'à Karine, par exemple, quand on lui posait la question oui. sur le féminin, elle nous a répondu sur son entourage, je pense, oui. Sa famille, oui. ses enfants, ou, oui. Des personnes.
Oui. Moi, je suis plutôt... Mm. Je mène un travail spirituel. Mm-hmm. Et tout mon travail est un espace mental. En fait, je travaille sur ma propre personne. C'est mm-hmm. une façon de... C'est mon altérité, de trouver mon altérité quelque mm-hmm. part.
Oui.
Et ça me permet d'être au monde. Voilà. Moi, je suis plutôt sur cet aspect de la vie.
Des féminins dans l'essence universelle, comme on l'avait cité à tout
oui,
à l'heure,
c'est ça.
Karine.
Mm-hmm.
Est-ce que tu trouves que cet universel féminin apparaît d'une manière évidente dans les cas de Kiki Smith, qui est une de tes artistes de référence?
Oui, alors de référence, parce que je l'ai vue dernièrement et ça m'a fait très plaisir de la voir aux abattoirs à Toulouse. Elle est mm-hmm. exposée en ce moment en famille avec son papa et sa sœur, en rétrospective. Et j'ai été surprise parce que c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Voilà. Mm-hmm. Je ne connaissais pas son travail. Ça m'a beaucoup soutenue, en fait. Voilà. Et mais c'est une personne qui est engagée, parce que j'ai lu un petit peu, j'allais me renseigner sur sa vie. C'est une personne qui est engagée et qui est féministe. Et ça, ça c'est moins ma partie. Moi, je suis pas quelqu'un qui travaille, qui a ce versant féministe qui pour moi est, serait à défendre. Mm-hmm. Je reste vraiment sur l'aspect féminin. Et par contre, l'engagement, oui, mais l'engagement pour moi, c'est être et travailler. C'est je voulais dire sur... Je me souviens plus ce que tu m'as...
Concernant une œuvre de Kiki Smith, tu as choisi Rapture, ouais. une œuvre de 2001. C'est une sculpture en bronze de 1,70 m où il y apparaît une femme nue en bronze qui sort de l'intérieur, on pourrait dire, du ventre d'un loup qui est couché. Pourquoi tu as choisi cette œuvre pour la présenter à nos auditeurs?
Alors, elle est noire. Bronze mmh. noir poli, taille humaine, mmh. c'est un autoportrait, c'est le corps de l'artiste.
Un moulage donc.
Un moulage, hein, voilà, oui. On mmh. le voit un peu sur le visage, elle est un peu mmh. cheveux collés. Et elle sort d'un loup, ouais. Rapture, ravissement en mmh. français. Alors, moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est l'impact que ça a eu sur moi, c'est tout à fait, ça m'en renvoie dans les contes. L'onirisme mmh. pur, le petit chaperon rouge, mmh. et la mise en scène qui est très nue tout autour, qui ouvre toutes les portes, je ne sais pas comment dire ça. Mmh. Et le noir du bronze fait que c'est un personnage qui est hors vie. Enfin, ça rejoint ce que je dis. C'est plus le rouge là, de la vie qui bouillonne, c'est vraiment comme un signe.
Bon, puisqu'on parle à d'autres artistes, Karine, un de tes artistes que tu as choisi pour le présenter aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est des Cahors.
Oui, l'artiste lotois.
Jean Redoulès.
Jean Redoulès, oui.
Oui. Alors, une œuvre aussi que tu as choisi de lui, c'est Écriture.
Écriture, alors je n'ai pas le titre exact, je pense, parce que je ne l'ai pas trouvé, mais en tout cas, cette série de créations sur papier renvoie à l'écriture cunéiforme. Donc pour lui, ce sont des écritures au travers duquel tout regardeur peut s'identifier, peut se retrouver. Voilà, c'est mmh. Donc je peux le décrire peut-être en
oui,
quelques
oui,
mots.
Donc, tu es là pour ça. Mmh.
Ce que je préfère dans son travail, cette partie-là, ce sont des monochromes blancs. Des papiers blancs perforés à l'aide d'un opinel, perforés par l'arrière. Donc, et puis c'est un geste répétitif, très lent. Et il écrit des pages comme ça, en alignant des perforations, des petits points. C'est quelque chose, pour moi, lorsque je le regarde, qui aide à la contemplation, je pense. C'est très dépouillé. C'est ce que je recherche de toute façon moi au travers de mon travail et des monochromes. Ça fait penser, lui il parle aussi de paysages, de déserts, Et il fait référence au paysage lotois, paysage aride, sec,
rocailleux,
que l'on retrouve bien dans ce travail. Voilà.
Donc je retrouve aussi que dans les choix de vos artistes à commenter, et il y a bien sûr, c'est logique, c'est normal de retrouver votre univers. Toi, Karine, dans les gaufrages, dans l'écriture, la contemplation, et Sophie, dans cet univers du vécu, du féminin, où tout est possible, et qui parfois nous interpelle de manière forte. Et donc, pour revenir un petit peu à transmission, à cette installation, tu voulais nous dire comment est-ce que le public a réagi. Parfois, c'était pas tout à fait évident, surtout pour l'art contemporain, pour une installation. Certains publics est un peu réfractaire à proposition comme celle que vous avez fait. Mmh. Alors, comment s'est déroulée cette rencontre?
Nous avons eu des retours assez tranchés, je dirais, sur l'exposition. Les retours négatifs, on ne les a pas fait réellement à nous, mais on a eu des retours de part des personnes qui ont gardé l'exposition. Et donc, on sait que pour certaines personnes, apparemment, c'était trop chargé, il y en avait trop. Oui, il y en avait trop, pour certaines, c'est ce qu'on m'a dit. Nous, c'est pas du tout le sentiment qu'on a eu lorsqu'on a monté l'exposition. Pour nous, au contraire, c'était... pour nous, on a le sentiment d'avoir trouvé le juste équilibre. C'est vrai que parfois, on va voir des expos, on se dit, oh là là, c'est surchargé. C'est ce qu'on ne voulait surtout pas. Et étonnamment, certaines personnes ont trouvé qu'il y avait trop de choses. Alors, peut-être pas surchargé, mais en tout cas, peut-être trop de propositions, j'en sais rien. Et puis, d'autres personnes nous ont fait de très bons retours, que ce soit pour Sophie, pour le travail de Sophie ou pour le mien, ou pour l'investissement du lieu. Le lieu a été transfiguré, comme disait François Piètre, le président de Chemin d'Art. Le lieu a été transfiguré, voilà. Les habitués du lieu ne le reconnaissaient plus. Donc ça, c'est quand même pour nous, c'était un challenge. On a essayé de le...
Parce qu'ils étaient attachés au côté sacré du lieu, anciennement sacré d'une église.
Ça fait 23 ans qu'elle est désacralisée. Mais ça reste une église.
Ça perdure. On a fait enlever pas mal de choses, les chemins de croix, on a fait alléger l'espace, parce que c'était quand même très, très, très chargé. Mais ça a suscité des petites tensions au départ. Quoi. Ouais, mais que se passe-t-il? Vous enlevez tout? Ça ne peut pas, c'est pas possible.
Oui.
Peut-être certains ont pensé que c'était un manque de respect. Non, mais c'est un lieu d'exposition aujourd'hui. Bon, il a été ce qu'il a été. Aujourd'hui, il est là pour ça. On pense qu'il est possible, avec un réaménagement adéquat, de pouvoir l'investir.
Oui, mis à part la quantité ou l'abandon de ce que les habitués avaient la coutume de voir, selon votre travail, il y a des propositions autant figuratives comme abstraites, non? Si je parle par exemple des monochromes rouges, et comme je parle aussi de ton travail, de l'autre partie de ton travail, c'est les maisons.
Oui, tout à fait.
Dans le cas de Sophie, les dessins de visage sur les suaires, on a un aller-retour entre la figuration et la non-figuration. Oui, pardon, tu voulais me dire quelque chose, Karine?
Non, je t'écoutais là, parce que c'est intéressant ce que tu dis.
Non, donc dans cet aller-retour entre le concret, avec la partie sur laquelle le public s'attache, veut avoir une piste, et cette absence des repères qui est l'abstrait ou qui est vraiment les portes ouvertes, comme disait tout à l'heure Sophie, et je voulais savoir comment le public réagissait, non? Donc, est-ce que c'est limité simplement à réagir? Donc, j'aime pas parce que c'est pas ce que je suis invité à voir, ou simplement parce que la proposition plastique que vous présentez, simplement, il n'était pas à la portée de ce public, je sais pas.
Alors, est-ce que c'est à la portée du public? En tout cas, ça pose question quand on découvre l'exposition. On n'a pas discuté, nous, sur le figuratif ou l'abstrait. Je ne pense pas qu'il y ait des œuvres abstraites dans l'exposition. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'abstraction.
Si.
Allez, Sophie.
Mais vas-y, dis pourquoi.
On finit d'écouter Karine.
Non, moi je ne fais. Pour ce qui est de ma part, je ne perçois pas mon travail comme un travail abstrait. Dans le sens où le motif revient de façon récurrente, le mot revient de façon récurrente. Tu parlais des maisons, donc que j'appelle des stations, qui elles n'étaient pas, qui n'étaient pas dans l'espace Saint-Michel, mais dans au lycée Bossuet, présenté au lycée. Donc tout ceci pour moi, ce n'est absolument pas abstrait. Après, peut-être l'interprétation qu'on peut en faire, elle l'est.
Sophie.
Alors moi, je trouve qu'il y a une très grande part d'abstraction.
Voilà, comme quoi.
Notamment dans Marée Noire. Je ne fais pas forcément référence à ton travail, mais la rivière de cailloux noirs qu'il y a au sol. Et même, je trouve que dans les parties figuratives, parce qu'en fait, je crois que là où on se comprend, il me semble que quand on travaille, on ne se dit pas « Oh là là, je suis dans le figuratif. Ah ben non, là, je suis dans l'abstraction. » Donc c'est... Mais ce qui se dégage de l'exposition, je trouve, c'est l'abstraction. Voilà. Comment l'expliquer ? Et en fait, les gens sont rassurés parce que c'est pas des férus d'art contemporain qui sont peut-être pas à faire à des choses comme ça tous les jours. Pire, enfin, je veux dire encore plus abstraite, dénuée. Mais donc ils sont rassurés en regardant un dessin. Parce qu'ils croient reconnaître un visage, parce qu'il y a des supports connus, parce qu'il y a des cadres. Hein, des fois, les coffrages sont encadrés, la typographie. Tout ça, je pense que ça a pour fonction de rassurer et d'amener, de conduire aussi hein, la lecture. Mais je trouve que notre composition de l'exposition est juste et équilibrée et elle permet justement de naviguer entre cette abstraction et cette figuration ou ce figuratif. Voilà, et voilà, un peu naviguer.
Comme quoi, nous n'avons pas tout dit.
Alors, une œuvre d'Olivier Messiaen, Première communion de la Vierge, jouée par Monsieur Ligeti, Giorgi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai écouté quand j'étais au Beaux-Arts à Bordeaux. J'ai vu Monsieur Ligeti au CAPC Musée. C'est un grand moment. Il expliquait son œuvre. Et j'ai écouté cette œuvre de Messiaen et que j'ai choisie pour une performance que j'ai faite à Cahors dernièrement. Et voilà, j'étais dedans, je l'ai amené avec moi aujourd'hui.
Mmh. Ah. Donc c'est ton choix correspondait à un vécu pendant ta formation à Bordeaux et aussi avec un autre vécu que c'est ta vie professionnelle.
Voilà. Ouais. Je suis ma vie professionnelle en ce moment comme dans transmission. J'ai repris un travail d'il y a 17 ans comme un marchepied. Je m'appuie dessus pour faire mon travail aujourd'hui. Mm-hmm. Parce que j'ai une grosse rupture de travail de 17 ans.
Je me demandais, étant donné que c'est une installation, il y a un espace, il y a tout un accrochage, c'est difficile à rendre ça par la photo. Pourquoi vous ne l'avez pas filmé?
Pourquoi on ne l'a pas filmé?
Alors moi, je n'ai pas pensé du tout à filmer.
Ça ne nous, nous a pas traversé l'esprit plus que ça.
Vous pensez que ça ne mérite pas d'être filmé, mais plutôt d'être visité?
Oui. Ouais, puis alors le montage, c'est un film à lui tout seul. Enfin, on se l'est joué toute seule.
Le montage a duré deux jours et demi, trois jours. Ouais. C'était très long. Mm-hmm. Voilà, pas simple, mais agréable aussi.
Oui, mais surtout si vous devez présenter ailleurs ce travail pour le faire circuler, peut-être un petit film de deux, trois minutes.
Alors on a un petit film, mais de très moyenne qualité. Mm-hmm. On verra si on peut l'exploiter ou pas.
Parce que vous pensez, bon, on va revenir à la troisième volée sur cette projection, cette prolongation de votre travail ailleurs. Et puisqu'on parle des films, pardon Sophie, tu voulais dire
quelque chose? Non.
Et puisqu'on parle des films, si tu as un film à proposer, Sophie, qu'est-ce que tu pourrais nous dire?
Alors, je pensais à Tan Arjuat. Mm-hmm. Je me souviens plus du nom du réalisateur.
Je l'ai noté, je le sais pas non plus parce que c'est un nom inuit.
Oui.
Et du coup, ça fait inuit aussi. Mais quand même.
Donc, c'est pas inaudible.
Oui. Donc, c'est Zachary Kounouk. Zachary, je sais pas comment on le prononce parce que c'est Kounouk. Zachary
Kounouk. Voilà, Kounouk. C'est ça.
Oui.
Oui. Prix d'un certain regard à Cannes, il me semble, en 2003.
Oui.
Je suis pas sûre. Et moi, je l'ai découvert récemment, en fait. Et j'ai aimé. Il m'a vraiment dépaysé. Déjà, d'une part, c'est blanc. Le film est blanc. L'horizon est blanc. Tout est blanc. On est sur des terres arctiques. Donc, la neige. Et c'est une histoire qui comprend les générations. C'est l'histoire de deux frères, mais c'est l'histoire aussi générationnelle comment on appelle ça, un sort qui s'abat sur cette famille qui va perdurer. Et qu'un des deux frères va devoir transgresser, en fait. Mm-hmm. Voilà. Oui, très belle histoire, d'amour aussi.
Oui, oui, je l'ai vu, ce film, oui. Et toi, Karine, quel film tu pourras proposer?
Mais moi, j'ai choisi Un air de famille.
Ah. Clapiche.
De Clapiche. Voilà, c'est un film que je prends plaisir à regarder, que j'ai vu plusieurs fois, que j'aime beaucoup, qui parle d'une famille, des relations familiales, des relations humaines, très fortes. C'est très cru, je trouve, et puis très vrai. Voilà. En même temps, c'est un petit peu comme le morceau de Radiohead tout à l'heure, ça monte doucement tout au long du film. Bakri est, je trouve, fabuleux parce que bon, ben lui, il est très contrasté comme ça et à la fois il est tout en douceur ou bien tout en violence. Il y a la question du couple aussi, de Yolande avec son mari. Oh, terrible cette relation de couple, je trouve fabuleuse comme elle est jouée parce qu'elle est magnifique. Et puis voilà, les acteurs Daroussin est génial aussi. Yolande est partagée entre son mari et Daroussin. Il y a un jeu entre tous les trois.
Même avec les petits chiens.
Oh là là, avec le chien et le collier. Enfin, bon.
Oui. Mais c'est curieux parce que vous deux, vous avez choisi des histoires de famille, en fait, des traditions. Hein.
Tout à fait.
Dans le cas de Sophie, c'est un sort familial qui s'abat sur le personnage principal qui doit exorciser en quelque sorte.
Voilà, oui, parce que c'est par le biais du chamanisme qui est très présent. Et il communique surtout, surtout par les voies de l'esprit.
Oui, c'est et deux cultures et deux temps différents, deux espaces complètement différents, mais universellement familial, non? Dans ton cas, Sophie, c'est l'Arctique, le blanc.
Et l'intemporel.
L'intemporel, mais dans l'art des familles des clapiches, c'est aussi intemporel, je le trouve malgré cette profusion, c'est aussi intemporel parce que je le retrouve dans toute partie du monde, hein, dans toutes les cultures que j'ai pu visiter ou avoir accès. Et ces airs des familles, les titres, les très parlants.
Ah oui, c'est un schéma qu'on retrouve partout et je pense que ce soit chez Sophie pardon, ou chez moi, la famille est très présente dans ce qu'on propose dans nos créations. Donc, après, je ne l'ai pas choisi pour ça, hein, mais il se trouve que ça correspond à ce qu'on est.
Oui, et à propos de vos créations, il y a une phrase qui est émise par un journaliste, ou peut-être qu'elle a repris de vous. Et c'est qu'une transmission, c'est le féminin vécu, quelque part. C'est-à-dire, votre idée du féminin, excusez-moi de revenir encore, parce que c'était votre pari, votre parti pris, c'était dans l'éducat de Karine et de Sophie, c'est toujours un féminin vécu, un féminin qui est bâti, tissé par l'histoire, et pas simplement par ce qu'on considère féminin comme féminin. Et bon, on arrive à la séquence à livre. Alors, vous avez choisi tous les deux un livre. C'était un accord commun ou c'était un qui l'imposait à l'autre
c'est toi, Karine, qui l'a lu en premier, qui me l'a fait passer. Oui. Je l'ai lu en second.
Voilà. C'est un partage aussi. Hein. J'ai beaucoup aimé ce livre. Donc, Kafka sur le rivage de Murakami. J'ai souhaité le faire partager donc à Sophie, lui proposer, voilà, tu connais, hein? Non, il connaissait pas, donc on a pu...
Et que Aurélien, qui s'occupe de la technique de cette émission, est en train de le lire aussi.
Donc, il faut pas tout raconter alors, parce qu'on va pas tout donner là.
Donc Murakami, c'était en fait un espèce de mythe vivant, là, au Japon, chaque fois qu'il produit... Dès qu'il publie quelque chose, tout le monde se roue sur les libraires. Mais c'est paradoxal ce qu'il affirme quand même Murakami, parce que lui dit il ne faut pas lire tout ce que tout le monde lit, parce que sinon on va penser comme tout le monde. Mais il produit tellement de livres que du coup, cette majorité va devenir à penser pareil. Donc je retrouve une espèce de paradoxe dans ce qu'il affirme et ce qui se produit avec ses livres. Mais revenons à Kafka. Donc, les noms de ces petits fougères de 15 ans, et c'est pas par hasard qu'il a mis Kafka. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de l'écrivain tchèque, mais c'est un nom. Alors, à la fin, on ne sait pas. Excusez-moi, Aurélien, on ne va pas dévoiler. Mais alors. Vous avez retrouvé l'univers kafkien là dedans. Je ne sais pas pourquoi il a mis Kafka.
Moi, pas plus que ça. Non, je n'ai pas retrouvé énormément. Pourquoi il a mis Kafka. Je ne sais pas, Aurélien, où tu en es dans le livre, mais bon.
Ou peut-être par les petits vieux qui parlent avec les chats.
Peut-être. Hein. Peut-être à ce moment-là, oui. Bon, au bout de quelques pages, il n'arrive plus à parler avec les chats, donc on retombe un petit peu sur terre. Et ce qui est fabuleux dans ce livre, je trouve, c'est toujours cette frontière, cette limite. Moi, c'est ce qui me plaît énormément, cette limite entre le réel et le rêve. C'est tangent souvent et on ne sait pas. Parfois, on est à la fois dans les deux, le réel et le rêve. Parfois, on s'évade aussi énormément. Bon, peut-être que ça peut se trouver à ce moment-là.
Donc, ce qui était fabuleux pour toi. Pour reprendre tes mots, c'est ta limite, c'est ta frontière indéfinie entre le rêve et le réel. Et pour toi, Sophie?
Le bord du monde. Il parle. Arriver au bord du monde, c'est fantastique. Moi, je trouve que ce Kafka, il est courageux. Enfin, c'est ce que je ressens, c'est son passage, hein, son rituel de passage. Comment il effectue son passage à l'âge adulte, on va dire, par exemple. Mais ça pourrait être aussi sur d'autres niveaux de lecture. Et je trouve qu'il a un cran fabuleux de s'autoriser tout, et notamment de partir et de tuer aussi. Je ne dirais pas qui, comment, lui surtout, mais voilà. Et c'est par rapport à ce que tu disais, Rosendo, Murakami, il dit pas comment les gens doivent penser. Donc il pourra écrire tout ce qu'il veut. Il y a une façon de le lire qui, moi, je l'ai vécu de façon presque initiatique. J'ai vraiment suivi quelque chose qui m'a accompagnée et qui a rejoint quelque chose que j'avais cru dépasser dans ma vie, qui a fait rejouer certaines choses et vraiment très très fort.
Oui.
C'est difficile d'en parler. Je suis pas trop dans l'univers de Kafka. Tu vois.
Il nous laisse une part de liberté dans ce que l'on peut penser, qui est importante, je trouve.
Tout dit, j'ai terminé ma phrase. Tout dit, j'ai tout dit, c'est gravé dans le marbre. Tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ah, tout dit, sœur, tout dit, tu veux que l'on se parle. Tout dit, oh, ma sœur Hildegarde. Tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, des oiseaux dans les arbres. Tout dit, j'ai, tout dit, j'ai fui à la hussarde. Tout dit, j'ai, tout dit, et les rats m'ont suivi. Tout dit, eh, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu as peur pour ma vie. Tout dit, oh, ma sœur, il ne garde. Tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, de la pluie dans les arbres. Tout dit, j'ai, tout dit. J'ai rompu le charme, tout dit, j'ai tout dit. Maintenant je vous regarde, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ah, tout dit, sœur, tout dit, tu veux sécher mes larmes, tout dit, oh, ma sœur, il te garde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, du vent dans les arbres. Tout dit, eh, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu donnes un jour ton cœur. Tout dit, oh, ma sœur, prends garde. Tout dit, ne, tout dit, pas, tout dit, où tu mourras d'ennui.
Donc c'est un morceau de Camille, Tout dit.
Et est-ce que vraiment vous avez tout dit?
Voilà, merci Rosendo. Donc justement, ben, nous disions que nous n'avons pas tout dit, que l'histoire va continuer, enfin on l'espère, que l'exposition de transmission, ben, on a envie qu'elle circule, qu'elle aille vers... Voilà, qui circule dans d'autres lieux.
Elle sera forcément différente dans d'autres lieux, donc il faut que ça va nourrir aussi un travail qui continue.
Elle va évoluer, elle va changer sûrement au fil du temps et en fonction des lieux qu'on nous proposera. Voilà.
Tu nous parlais aussi tout à l'heure hors antenne sur l'Artothèque.
Oui. Donc pour découvrir aussi la série de gaufrages, typogravures et sérigraphies que j'ai présentées à l'exposition, elles sont présentes, tous ces multiples-là sont présents à l'Artothèque de Cahors. C'est par le biais de l'Artothèque et du Conseil Général du Lot que j'ai pu réaliser ce travail-là, qui a été financé via une bourse. Et donc les personnes désireuses de les découvrir peuvent se rendre à l'Artothèque pour les découvrir, ou bien à l'atelier chez moi, bien sûr.
Oui, qui se trouve
à Flognac, donc dans le Lot, Pour situer, c'est le sud du Lot, sud du département. Donc l'adresse, c'est la Molérette. C'est un petit hameau, c'est à la campagne.
Et tu es tous les jours, tu es visitable tous les jours.
Sur rendez-vous.
Mmh. Oui, donc tes coordonnées sont facilement retrouvables sur
oui,
les...
ben après, sur Internet, à l'adresse carineveillre.fr, vous trouverez les coordonnées. Numéro de téléphone, adresse, mail.
Oui. Et est-ce que tu as un site à annoncer où tes œuvres sont visibles?
Sur le site www.carineveillre.fr.
D'accord. Mais je suis content que tu aies mis... exergue plutôt la visite directe de l'atelier ou l'artothèque, parce que souvent je constate qu'existe une espèce de feignantisme ou plutôt de mauvaise habitude qui s'installe avec cet outil qui est très moderne et très pratique que c'est Internet, mais il y a le côté pervers que les gens ne bougent plus de chez eux. Donc, et surtout pour une... pour des œuvres qui méritent d'être vues dans l'espace, et de les contacter, de les avoir presque envie de les toucher, comme c'est les coffrages, comme c'est les installations de Sophie, comme c'est les suaires. Donc rien ne pourra égaler les contacts directs, la visite à l'atelier ou la visite à l'artothèque.
Oui, tu as raison. Et on l'a constaté pour l'exposition de transmission, les personnes qui un petit peu éloignées de Condon, du Gers, ont eu du mal à se déplacer concrètement sur le lieu d'exposition. Quoi. Notre entourage proche, c'était un peu difficile.
Mmh.
C'est vrai que, bon...
Bon, mais je pense que c'est un réflexe presque primaire et qui s'installe dans notre société, dans notre nouveau monde, parce que les contacts, la fluidité des êtres humains deviennent de plus en plus rares, à tel point que les gens se préfèrent rester chez soi, se protéger, vivre dans cet univers à point de point de rien communiquer aux autres. Et c'est vraiment dommage parce qu'on va vivre plutôt un contact avec la vie, qui est un contact électronique et pas avec cette spontanéité qui nous donne la vie réelle. Non et Sophie, tu voulais nous dire quelque chose? Pardon.
Non, c'est pas pour enterrer Internet, mais je pense qu'il y a un travail à faire avec aussi, qui est différent. Mais moi, j'habite à Flotte, mon atelier est à Flotte, dans le Lot, et si vous passez, vous serez bien reçu.
Mm-hmm. Mais tu avais un autre projet en 2013 aussi.
Alors, j'ai un projet de résidence avec des personnes handicapées, un centre d'aide par le travail. On va travailler sur la laine, la production de la laine. Et je ne sais pas trop bien encore. C'est un projet vraiment en réflexion. Et j'ai aussi une performance qui est en cours, une performance qui s'est déroulée à Cahors et qui va vivre encore sous différentes formes.
Pour quand?
Ça, c'est pas encore
décidé.
Mm-hmm. On est en travail avec une danseuse. Donc.
Pour visiter ton travail, ton atelier, mm-hmm. comment tu pourrais nous donner plus de coordonnées?
Alors, moi, j'ai un blog, mais qui est un peu compliqué à énoncer. Mais enfin, Sophie Régal sur le net, artiste, on trouve. Et ensuite, c'est chez moi. Je travaille chez moi. J'ai mon atelier, donc à Flotte, près de Cahors.
Mm-hmm. Retrouvable sur les
pages, mes coordonnées, sur l'annuaire, mm-hmm. le blog, le internet.
Mm-hmm. Une dernière chose que vous voulez ajouter avant de nous dire au revoir, parce que c'est notre avant-dernière émission. Hein. Nous avons pour nos auditeurs, il ne reste qu'une semaine. La semaine prochaine, je reçois une invitée aussi. Et après, en juillet, août, on arrête l'émission jusqu'au septembre. Donc, je vous laisse dire les mots d'adieu. Merci d'être venu. Allez-y, Karine ou Sophie.
Et merci beaucoup, Rosendo, de nous avoir reçus, d'avoir permis de nous exprimer sur cette belle rencontre entre nous deux et ce beau travail.
Oui, merci beaucoup, Rosendo. Et s'exprimer sur notre travail, c'est pas forcément simple, mais en tout cas très intéressant. Et qu'est-ce qu'on peut dire si ce n'est que l'on va continuer et que et voilà, on reprend tes mots, Sophie, que la création c'est la vie tout simplement, quoi.
Voilà, c'était les rendez-vous de Rosendo. Aujourd'hui, avec Karine Veyre et Sophie Rigal, vous pouvez bien sûr retrouver le podcast sur cfmradio.fr.